Vous écoutez le podcast Allez Savoir. Aujourd'hui, pour le nouvel épisode du podcast Allez Savoir, nous vous proposons d'évoquer avec nos deux invités le sans-abrisme. Bienvenue à Édouard Gardella, sociologue au CNRS, et Sophie Rouet-Lambert, urbaniste sociologue et membre du comité scientifique de la Nuit de la Solidarité. Bonjour. Pour commencer, tout simplement, qu'est-ce que le sans-abrisme ?
Alors, le sans-abrisme est une notion qui peut froisser l'oreille. Hein. C'est une question qui est souvent posée. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, ça vient en fait de l'anglais. Hein. C'est de l'anglais homelessness. Et en gros, on peut considérer qu'il a deux sens principaux. Le terme pourrait désigner à la fois, va englober à la fois les personnes qui sont strictement sans abri, qui dorment dans un lieu non prévu pour l'habitation, c'est-à-dire hein, par exemple un espace public, un square, une rue, un souterrain, une voiture ou encore un hall d'immeuble, mais aussi des personnes qui sont en hébergement social, voire qui sont en logement et qui sont en précarité d'habiter. En particulier des personnes qui sont confrontées à des violences dans leur logement. Donc voilà, la notion de sans-abrisme a deux sens principaux, un sens littéral, si vous voulez, et un sens plus technique et scientifique.
Je souhaiterais poursuivre le propos de M. Gardella sur deux points. Premier point, tout d'abord, la notion d'habiter reste très large. L'habiter intègre l'habitat, l'habitus, les habitudes, l'appropriation de lieux qui deviennent des lieux de vie pour les personnes sans-abri, les adaptations à un environnement, etc. Mais ces lieux ne sont pas du registre du logement. Avec le temps, on peut donc dire que les personnes sans-abri habitent la rue au sens large, selon les adaptations et les compétences incroyables qu'elles y développent. Mais ne nous trompons pas, malgré tout, ce n'est pas un choix. Le sans-abrisme doit rester irrecevable, car elles vivent chaque jour et chaque nuit qui passe dans des conditions extrêmes de survie sanitaire et sécuritaire, et sont sujettes à du stress et à des dangers constants. Très rapidement, et dans le temps qui devient long, dans lequel elles s'installent, les personnes s'abîment. Donc peut-être qu'elles habitent la ville, mais elles ne sont pas logées pour autant. Donc oui, le logement est au cœur du problème du sans-abrisme. Et là encore, et c'est le deuxième point, c'est important de préciser le sens des termes, ce néologisme sans-abrisme, il est assez récent puisqu'il a été institutionnalisé en 2010, s'il est communément admis, il doit toujours suggérer le questionnement. Donc, en effet, je suis ravie de savoir qu'il heurte les oreilles, et bien heureusement. Le néologisme sans-abrisme a l'avantage de permettre un langage commun entre des acteurs qui évoluent dans des mondes et des temporalités différentes, ce qui est déjà pas mal pour avancer en réflexion et en action. Mais ce néologisme a aussi les défauts de son avantage. Le sans-abrisme floute la diversité des situations singulières complexes, vécues par des personnes qui ont des trajectoires de vie très différentes et donc des besoins et des attentes différentes. On devrait ici parler non pas du sans-abrisme, mais des sans-abrismes.
Quelles sont les particularités du sans-abrisme en milieu urbain ?
Le phénomène des sans-abrismes en milieu urbain se situe, pour résumer, grossièrement, à la croisée de trois mouvements concomitants. Premier mouvement, celui d'une spéculation foncière et immobilière consécutive à la reconquête des centres-villes, amorcée dans les années 80 puis 90, et qui se poursuit depuis, et qui a eu pour conséquence l'accès de plus en plus difficile au logement pour les classes moyennes, et également pour conséquence la disparition de la majeure partie du logement social de fait, comme par exemple des meublés, des chambres de bonne, etc. Ce logement social de fait, celui-là même qui rendait la ville hospitalière. Donc une partie de celles et ceux qui étaient logés se sont retrouvés sans domicile fixe et sont entrés en errance. Le deuxième mouvement associé, celui de la crise économique et sociale structurelle, ayant pour conséquence une précarisation des classes moyennes, une paupérisation des strates populaires et une montée des inégalités. Donc une partie des personnes ne se sont pas relevées et sont également entrées en errance sans domicile fixe. Et enfin, troisième mouvement associé, pour le dire vite, la mondialisation dans la décennie 80, suivie de la globalisation dans la décennie 90, aujourd'hui on parle de planétarisation, le tout sur fond de décolonisation et d'indépendance des pays concernés, ont eu pour conséquence des mouvements de population intra- et internation, une transformation des équilibres mondiaux et des conflits divers, le tout débouchant sur des migrations internationales, dont évidemment nous retrouvons certaines des figures dans nos rues aujourd'hui. Alors, quelles sont les spécificités du sans-abrisme en milieu urbain ? C'est justement d'y retrouver cette diversité de trajectoires de vie et de migration, des provinces vers la ville, des milieux ruraux vers les milieux urbains, des diverses périphéries vers les métropoles, etc. C'est pourquoi, En fonction des trajectoires de chacun, des manières de vivre le sans-abrisme et des perspectives de sortie des situations, eh bien, ne sont pas les mêmes. Le risque, donc, avec ce néologisme qu'est le sans-abrisme, c'est bien d'effacer la singularité des histoires de vie dans un nouveau jargon administratif et de nourrir des discours et des imaginaires, qui, volontairement ou non, effraient la société civile. La ville, de son côté, offre une concentration de services, de ressources propices à la survie. La ville procure une invisibilisation, le temps nécessaire pour cacher sa situation. La ville est également le lieu de toutes les rencontres, dont certaines sont facilitantes, ou embarquent sur d'autres chemins qui améliorent ou qui dégradent des situations. La ville demeure donc un territoire de possible. C'est pourquoi elle attire toutes les formes d'errance et de migration, mais en retour, la ville est le lieu de tous les déracinés. Pour clore sur ce point, et parce qu'il est aujourd'hui devenu un phénomène, le sans-abrisme révèle en soi, malgré les volontés politiques et l'engagement des acteurs et des agents, une inadéquation relative de 40 ans de politique publique d'action et de prévention.
Quel est le rapport des sans-abri aux propositions d'aide d'hébergement d'urgence ?
On peut considérer qu'il y a trois rapports, hein, si on schématise un peu les choses. Le premier, c'est un rapport d'acceptation. Un nombre de personnes sans-abri vont dans les hébergements d'urgence qui leur sont proposés, et la preuve en est que tous ces hébergements sont amplement saturés. Et donc dans ce cas-là, les personnes, on va dire, jouent le jeu hein, de l'accompagnement qui est proposé par les professionnels en faisant les démarches demandées afin de pouvoir accéder alors, à un autre type d'hébergement de plus longue durée avec un accompagnement de meilleure qualité et pour ensuite, en principe, accéder d'abord à un logement temporaire, transitoire, puis un logement qu'on dit de droit commun ou autonome, en majorité c'est un logement social, c'est parfois un logement dans le parc privé. Ce processus, on va dire, est appelé par les experts ou des chercheurs le modèle en escalier, parce que tout se passe comme si les personnes devaient gravir un escalier, monter d'un étage considéré comme inférieur, un étage considéré comme supérieur, et le sommet de l'escalier, au terme donc du parcours, c'est le logement dit autonome. Le deuxième rapport, c'est un rapport, on va dire, d'usage ponctuel. C'est-à-dire que c'est des personnes qui acceptent d'aller en hébergement d'urgence, mais qui n'y restent pas et qui ne s'engagent pas le parcours en escalier. Enfin, il y a un troisième rapport qui est un rapport de refus, hein, de refus tous les hébergements d'urgence ou la plupart des hébergements d'urgence qui sont proposés. Et dans ce cas-là, les chercheurs et même les professionnels disent que les personnes sont en situation de non-recours à leurs droits. C'est-à-dire qu'elles ont un droit, elles sont éligibles à un droit, hein, qui est le droit à l'hébergement social, mais elles refusent de l'activer.
Pourquoi des personnes sans-abri refusent d'être hébergées ?
Alors, en général, il y a deux explications. Soit on considère qu'elles sont désocialisées, c'est-à-dire qu'elles sont en dehors de la société et devenues incapables d'activer leurs droits parce que trop épuisées, trop en dehors de la société. Soit on considère que c'est un choix, alors un choix qui est souvent sous contrainte, c'est-à-dire que c'est en fait un arbitrage entre un coût et un avantage. Ainsi, les hébergements d'urgence ne sont pas acceptés parce que, par exemple, ils sont vus hein, par les personnes comme imposant une promiscuité trop grande avec d'autres personnes, ou comme étant trop sales, ou encore trop dangereux. Alors, dans les deux cas, il y a des éléments qui sont vrais, à mon sens. Hein, mais elles partagent un même problème, à mon sens, c'est qu'elles font comme si les sans-abri étaient des individus n'appartenant à aucun groupe, à aucune forme de vie collective. Or, nombre de travaux hein, en anthropologie, en sociologie, ont montré que les sans-abri sont intégrés dans des groupes, des réseaux, qui ont des normes et des règles. Et une de ces règles est, je cite certains sans-abri qui disaient cela que j'ai pu rencontrer, hein, une de ces règles est de ne pas lâcher. Ne pas lâcher, c'est-à-dire rester à la rue, de tenir coûte que coûte. Et comment comprendre cette mise à distance des hébergements en termes de ne pas lâcher ? Il me semble qu'on peut le comprendre comme étant une manière de rester intégré au monde de la rue, duquel l'accès à l'hébergement pourrait justement exclure. Donc c'est une réflexion autour de la prise en compte de ces groupes qui pourrait être proposée aux professionnels qui vont vers les sans-abri qui refusent l'hébergement d'urgence.
pour bien comprendre, pour survivre dans ce milieu extrême, hein, inhospitalier qu'est la ville, la rue, lorsqu'on vit sans logement, il faut trouver un autre moyen de faire. Et une des manières de faire, c'est de se resocialiser à un groupe, hein, soit un groupe de pairs avec des gens de la rue, mais également de socialiser avec un voisinage, avec des commerçants, négocier. Tout à l'heure, je parlais de négociation avec les forces de l'ordre ou avec les agents des services techniques de la ville. Ça fait partie de tout un écosystème, on va dire, social que la personne petit à petit tisse pour survivre au quotidien. Parce que n'être uniquement que dans des démarches jour après jour, ça, psychologiquement, on ne tient pas. Donc, cette socialisation au monde de la rue, ce qui permet de dire que les personnes habitent la rue, ou habitent le milieu de la rue, ou habitent l'urgence même, petit à petit, fait qu'elles se construisent un cadre de référence, un schème qui, au plus elles sont socialisées au monde de la rue, au plus elles sont désocialisées, évidemment, des autres cadres de référence. Donc, elles s'éloignent de plus en plus des dispositifs, de la logique des rendez-vous, des calendriers, etc., etc. Chaque jour, la question est... Où est-ce que je vais dormir? Où est-ce que je vais manger? Où est-ce que je vais me laver? Où est-ce que je vais, etc., etc. Comment je vais faire tout ça? Et donc la projection sur le lendemain ou le surlendemain, lorsqu'on a un rendez-vous, ça devient une forme d'abstraction. C'est un point important parce qu'on pense de manière un peu objective et raisonnée, il faut un logement pour une personne qui est sans abri. Oui, mais en effet, trouver un logement quelque part à une personne qui a été sans abri pendant un certain temps et qui s'est fait tout un réseau dans un quartier, c'est une rupture, c'est à nouveau un déracinement, et un déracinement territorial, et un déracinement avec tout un ensemble de personnes avec qui il a tissé des liens. Donc une bonne partie des causes d'échec, entre guillemets, hein, je mets bien échec entre guillemets, ou de rechute à la rue, sont dues au fait qu'il y a une délocalisation beaucoup trop forte, c'est-à-dire on va trouver un logement à une personne totalement éloignée de toutes ses habitudes de vie. Donc, il va préférer, en effet, pour certains, retourner dans son quartier, non pas pour préférer retourner à la rue, mais parce que d'un point de vue de la sociabilité, d'un point de vue de ses habitudes et des relations sociales tissées, eh bien, il habite là, il habite ce quartier-là, il n'habite pas encore le logement dans lequel on l'a placé. Donc le logement, ce n'est pas uniquement un toit au-dessus de la tête, c'est un accompagnement extrêmement important, c'est du rapport aux soins, c'est attention à l'histoire de vie qui fait qu'il peut y avoir des périodes de dépression, de rechute, etc. Et le voisinage est très important aussi. On voit qu'il y a des récurrences dans les retours à la rue. Une des récurrences, c'est par exemple les anniversaires traumatisants, anniversaire de la mort de quelqu'un, ou autre, où là, la personne va rechuter. Donc, sachant cette histoire de vie, par exemple, des accompagnants, une association, des bénévoles, un peu avant cette date anniversaire fatidique, vont renforcer l'accompagnement, par exemple. Un autre motif de chute ou de rechute à la rue, c'est plutôt en début de parcours, hein, lorsque les personnes se retrouvent en effet logées, où tout d'un coup le changement est tellement important, elles sont extrêmement déstabilisées. En fait, le fait de se retrouver dans des murs, avec un plafond, avec un mobilier, eh bien, c'est une violence. Hein. Le fait d'avoir aussi une clé et de pouvoir fermer la porte à clé, d'avoir un nom sur une boîte aux lettres, c'est quelque chose qui peut déclencher des angoisses, des pathologies liées à la paranoïa. Un point important également sur le relogement, c'est qu'une bonne partie de la population relogée décédait dans les 6 mois de leur relogement. À peu près 25%, en tout cas du panel étudié, décédait dans les 6 mois. Il s'agit d'une forme de décompensation, c'est-à-dire qu'en mode survie à la rue, le corps se met en gros en pause pour être attaché justement à cette survie du quotidien. Et une fois que la personne peut se relâcher, le corps relâche aussi, et là les pathologies latentes accélèrent. Bref, tout va très vite, et donc c'est des cancers à gogo, l'accélération des pathologies qui étaient un petit peu latentes, on va dire. Sachant cela, évidemment, en prévention, eh bien, il y a un accompagnement à la santé de plus en plus poussé.
Sophie Rouet-Lambert, vous êtes membre du comité scientifique de la Nuit de la Solidarité. Qu'est-ce que la Nuit de la Solidarité et quels en sont ses objectifs?
Les objectifs de la Nuit de la Solidarité sont de procéder à un décompte annuel de personnes sans abri, une nuit donnée dans la capitale. L'opération, en fait, a 2 objectifs. Elle vise donc à compter à un instant T, le nombre de personnes se trouvant en situation de rue, c'est-à-dire n'ayant pas d'endroit où dormir pour la nuit ou dormant dans un lieu impropre au sommeil, par exemple une voiture, une tente, un hall d'immeuble, etc. Ça, c'est l'approche quantitative. Le chiffre, même s'il reste toujours discutable, et c'est ce que l'on fait, entre autres, dans le comité scientifique, le chiffre est important pour envisager une réflexion qui va conduire à l'élaboration d'une politique. Deuxième point, l'opération vise également, justement, à mieux appréhender et mieux connaître les profils des personnes rencontrées, ainsi que leurs besoins, en vue de faire progresser les dispositifs et les politiques publiques d'accueil, d'hébergement et d'insertion. Ça, c'est le volet plus qualitatif de l'opération. Concrètement, la Nuit de la Solidarité peut se dérouler grâce à l'engagement des citoyens et des agents des différentes institutions et associations qui œuvrent sur le sujet. D'ailleurs, dès la première Nuit de la Solidarité, en 2018, les Parisiens ont été très nombreux à exprimer leur souhait de s'engager davantage auprès des sans-abri. Et pour les accompagner dans leur démarche, la ville a créé un lieu dédié aux bénévoles et aux associations. Il s'agit de la Fabrique de la Solidarité.
En 2023, c'est la 6e édition de la Nuit de la Solidarité. Quel dispositif la Nuit de la Solidarité a permis de créer ?
Les données récoltées permettent chaque année d'adapter les dispositifs et les actions que la ville porte à l'attention des personnes en situation de grande exclusion. Je vais en citer quelques-unes, mais vous pourrez retrouver davantage de précisions dans les documents mis en lien avec le podcast. Par exemple, pour lutter contre les nombreux vols signalés par les personnes sans abri, des bagageries ont été déployées en plusieurs points de la capitale. Mais une des actions importantes qui cible spécifiquement la protection des femmes et qui tente de faire baisser leur nombre à la rue se développe via, par exemple, la création d'une halte à l'hôtel de ville pour accueillir des femmes en journée et les héberger. Par exemple, la création d'Agnodis, un centre d'hébergement dédié aux femmes monoparentales, et aux familles. Le dégagement également de créneaux spécifiques pour les femmes dans les bains-douches ou encore la distribution de kits d'hygiène intime, etc. On le voit, ce sont beaucoup de micro-actions, parfois peu visibles, mais qui au quotidien et grâce à la meilleure connaissance fine des situations, permettent d'améliorer un peu le quotidien de vie des personnes en situation de sans-abrisme. Sur la connaissance qualitative des personnes, je voudrais vous partager un point qui me semble très important et qui concerne directement les agents des divers services techniques de la ville de Paris. Une bonne partie des agents qui travaillent dans les espaces publics, dans les sous-sols, qui travaillent la nuit, qui travaillent à l'entretien des lieux et des espaces, ou qui travaillent à la sécurité ou aux accueils, etc., ont une connaissance très fine des personnes, des usages et des situations, et ont avec le temps acquis des compétences qu'ils ne soupçonnent peut-être même pas. Donc, je ne sais pas s'ils participent à la Nuit de la Solidarité, mais ils seraient vraiment très intéressants pour nous, comité scientifique, mais surtout pour les équipes de bénévoles qui sillonnent les rues lors de la Nuit de la Solidarité, qu'ils soient peut-être davantage sensibilisés et invités à y participer, si leurs conditions de travail le leur permettent. En effet, les échanges avec les citoyens parisiens et avec les acteurs en charge de ces questions seraient grandement enrichis de leur expérience et de leur expertise.
On entend de plus en plus parler de la notion de droit à habiter. Est-ce que vous pourriez nous expliquer de quoi il s'agit et de regarder là ?
Alors, l'expression droit à habiter a été travaillée collectivement dans un réseau de recherche qu'on appelle aux frontières du sans-abrisme, à partir notamment des travaux de la sociologue Pascale Pichon, qui a travaillé sur les manières dont les personnes hébergées ou étant à la rue parviennent ou s'efforcent de reconstituer un chez-soi. Partant de là, notre société, si elle se veut cohérente avec les normes égalitaires et individualistes qui la gouvernent, doit alors garantir un droit à habiter pour toutes et tous. Mais qu'est-ce que ça veut dire habiter ? On peut considérer que ça renvoie à plusieurs dimensions, c'est-à-dire vivre en sécurité, dans des conditions d'hygiène considérées comme normales dans la société actuelle, avec la possibilité d'une intimité, ce qui est considéré comme normal aussi dans notre société, mais aussi la possibilité de développer une sociabilité à partir du lieu où on dort. Voilà, en gros, ce seraient les quatre dimensions de l'habité ou du chez-soi, et ça suppose donc une stabilité de l'habitat. Et donc, à partir des évolutions, on va dire depuis 15 ans, des politiques sociales, d'hébergement social et de logement, on a proposé, c'est encore en discussion, de réfléchir à un nouveau droit social qu'on appelle donc le droit à habiter. Donc, l'idée du droit à habiter, c'est d'offrir, en gros, les conditions du logement à toutes et à tous, c'est-à-dire y compris aux personnes qui sont en situation irrégulière. Donc l'idée, c'est en gros d'encourager les pratiques déjà existantes qui cherchent à stabiliser et à développer un chez-soi pour toutes les personnes, qu'elles soient logées ou non. Et donc, finalement, il s'agit de critiquer certaines formes des politiques sociales actuelles destinées aux sans-abri, qui reposent encore trop sur une logique du mérite. Hein, on parlait de l'escalier tout à l'heure. Hein, donc le logement serait en gros la récompense du parcours, à la fin du parcours. Donc sortir d'une logique du mérite pour renforcer la logique du droit qui est déjà actuelle, mais qui est encore insuffisante à nos yeux.
Merci à tous les deux, Edouard Gardella, Sophie Rouet-Lambert. Si vous voulez en savoir plus sur ce sujet du sans-abrisme, vous pouvez consulter sur le site Intra-Paris le rapport de la précédente édition de la Nuit de la Solidarité. La Nuit de la Solidarité, c'est ce soir. Il y aura cette année, 2023, une deuxième édition au mois de juin. Merci à tous. Retrouvez tous les épisodes d'Allez Savoir sur Intra-Paris et sur le site Ocha. Écoutez, comprendre, apprendre avec Allez Savoir.